jusqu'à 13h et en direct, bien installé, les rendez-vous de midi, le jeudi, c'est l'économie dans le Nord-Ouest Vendée. Votre invité aujourd'hui, Emma, Benoît Pinault de Flow Expérience.
Exactement, Benoît Pinault, ambiance jeudi, c'est happy, ça fait longtemps. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, ça fait longtemps.
Enfin, ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs. On vous a reçu il y a quelques semaines.
Ah, on s'est venu il n'y a pas très longtemps, ouais. Je me souviens, effectivement. Mais pour le lundi, c'était hier. Happy, ouais. La dernière fois.
Oh, lundi happy, ça fait longtemps.
C'était début septembre, octobre.
Vous me manquez un peu.
Bah, moi aussi, ça me manque.
Benoît, qui développe une activité de préparation mentale de sportifs, de dirigeants aussi, de managers avec des préparations individuelles et collectives. Ben, on va vous présenter quand même, Benoît Pinault, parce que tous les auditeurs ne vous connaissent pas. Puis ben, vous évoluez hein, au fil des ans. Quel est votre parcours?
Alors ces dernières années, effectivement, je suis très focalisé sur la préparation mentale, hein, qui est une forme d'accompagnement assez spécifique et qui s'adresse effectivement pas qu'aux sportifs de haut niveau, puisque c'est un peu l'idée reçue que l'on a aujourd'hui. Et même la semaine dernière, j'intervenais au niveau du comité départemental olympique, et même auprès des éducateurs, ils ont l'impression que ça s'adresse à une élite.
Ah oui, ouais. Et pas forcément.
Et ben non, pas forcément, parce qu'avant de devenir une élite. On s'adresse à des jeunes qui sont en devenir, hein, des gens qui ont une certaine ambition, des projets. Et quand on arrive justement à mettre en place certaines habiletés mentales très très tôt, c'est ce qui aide justement à devenir des athlètes accomplis.
Mais alors avant d'être préparateur mental, vous avez fait plusieurs métiers, vous avez plusieurs directions?
Oui, alors tout début, moi j'ai commencé, j'ai un long parcours commercial dans différentes activités, même voilà, très très diverses, dans la confection, dans du bâtiment, dans de l'électronique de sécurité, dans des appareils respiratoires, dans plein de domaines. Et j'adorais ça, et dans le développement commercial, puisqu'effectivement c'était aussi trouver des idées, trouver des nouveaux marchés. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et effectivement, là, la bascule, elle est un peu à grand écart.
Ouais.
Entre ce moment-là et ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
Vous êtes passé par le coaching, l'hypnothérapie aussi. Mm-hmm. Et puis donc, aujourd'hui, la préparation mentale, fort de toute cette expérience de vie et professionnelle. Comment vous la définissez, justement, cette préparation mentale?
Eh bien, on croit justement que c'est souvent des outils. Et en fait, c'est davantage un processus qu'un outil. Moi, personnellement, les définitions que j'en donne, c'est justement d'accompagner des athlètes dans un processus d'autonomisation. C'est-à-dire que forcément, on a la chance avec des athlètes qu'ils participent à des compétitions dans lesquelles ils vont être tout seuls ou en équipe. Mais en tout cas, leur performance dépend d'eux, hein, pas de ce que l'on va faire avant. Donc l'idée, c'est d'appréhender les forces et les faiblesses et puis de les aider à développer une attitude constructive pour que le jour J, on puisse justement être à fond de son potentiel. Et moi, ce qui m'intéresse même plus que ça, c'est pas tant la réussite d'un examen, d'une épreuve, de battre son record. En fait, je trouve que c'est un processus à long terme, parce que même si le sport, à la fin, fera pas partie de sa vie, eh bien, on contribue à amener une construction identitaire de la personne.
C'est pas par hasard que vous avez choisi de travailler avec des sportifs?
Non, c'est par hasard. Moi, j'aurais adoré justement avoir ce processus-là. Il y a encore des moments où aujourd'hui, j'en aurais bien besoin de me les appliquer. Donc ça m'aide aussi dans mon quotidien. Je suis pas sûr que j'aurais fait de toute façon une carrière de sportif de haut niveau, parce que je commence à comprendre aussi ce qui fait l'abnégation, l'engouement et la volonté d'aller se dépouiller pour chercher un objectif ambitieux. Je suis pas sûr que j'étais câblé pour ça.
Et vous avez donc aussi adapté cette formule au monde de l'entreprise, c'est important. Donc il y a effectivement ces deux cibles.
Oui, parce qu'en fait, on trouve énormément de similitudes. Dans le monde de l'entreprise, eh bien, on est confronté à des enjeux, on est confronté à des difficultés, on est confronté à des aléas. Et donc, comment on réagit face à tout ça? Eh bien, il y a beaucoup de similitudes, justement, avec la préparation mentale des sportifs sur ce sujet-là. Alors, j'ai remarqué que, par contre, il y avait quand même une grosse différence.
Oui.
C'est que de temps en temps, les sportifs s'arrêtent.
Et les chefs d'entreprise, c'est plus difficile.
Eh bien, ils s'arrêtent jamais. On a l'impression qu'ils sont en permanence en compétition.
Ouais. Ouais, c'est un sujet qui avait été adapté et évoqué récemment dans une conférence sur le fait de jamais effectivement s'arrêter. Un mot, votre activité, Benoît, elle se fait dans le cadre de votre société qui s'appelle Flow Expérience. Je crois que ça a été une chronique importante du lundi, c'est Happy, le Flow. Mais alors, c'était longtemps. Vous nous rappelez ce que c'est que ce concept du Flow?
Et bien, en fait, rapidement, le Flow, Ça a été modélisé par un psychologue hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Je ne vais pas les plaire, heureusement qu'on est à la radio.
Ah, si, plaît-le. Non, je peux pas.
Celui qui sait nous l'écrire, je lui offrirai un lot.
D'accord.
On pourrait mettre un concours. En fait, il a modélisé ça comme étant l'expérience optimale. C'est-à-dire, quand on est dans ce flow, on combine effectivement tout un tas de sujets. C'est-à-dire qu'on maîtrise pleinement ce qu'on est en train de faire. Et paradoxalement, on vit aussi une espèce de distorsion du temps. C'est-à-dire que cette sensation-là, on l'a connue tous, mais à des brefs moments. Et c'est d'ailleurs même au moment où on s'en rend compte que ça disparaît. Et en fait, c'est la définition de l'exacte adéquation entre ses compétences et le défi qu'on est en train de jouer. Et c'est pour ça que quand j'appelle ça flow expérience, c'est de se rendre compte que chacun est différent. Et qu'on a tous des forces, des faiblesses, et que le niveau de progression va devoir s'adapter au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est très difficile des fois, même quand on est à l'entraînement, de demander des mêmes indicateurs de progression ou de faire les mêmes exercices pour faire progresser des gens, parce qu'on n'est pas dans le même flow, on n'est pas dans le même rythme, et surtout on n'y va pas pour la même chose. Quelqu'un qui va, par exemple, skier, certains vont prendre juste du plaisir dans la glisse et de descendre, et puis d'autres, effectivement, vont vouloir descendre des pistes noires, d'autres vont faire des figures, etc. Et à l'intérieur d'une même discipline, on n'a pas forcément les mêmes envies. Et vouloir dire, moi je vais accompagner des gens parce que je veux qu'ils soient champions du monde, c'est pas
forcément
ça.
Ouais. Alors justement, qui peut vous solliciter? Pas forcément un grand compétiteur, vous l'avez dit, et souvent pour des problématiques qui se ressemblent. Ça fait quelques années maintenant que vous accompagnez du monde.
Oui, alors c'est assez rigolo parce que je peux avoir autant des gens, alors de plus en plus jeunes, effectivement, à 14, 15 ans, justement, qui commencent à arriver dans des pôles espoirs, qui commencent à avoir un niveau assez intéressant et qui du coup commencent à ressentir aussi ce que c'est la pression, ce que c'est la gestion des défaites. Alors ils me parlent de stress, ils me parlent de... Alors, pas toujours d'émotions, les mots sont pas toujours évidents à donner. Ils vont me dire voilà, que c'est pas évident de rester concentré, qu'ils vivent des fois des déceptions, des frustrations. Et en fait, c'est un peu pareil même pour des gens un peu plus âgés. J'ai des gens même de plus de 60 ans qui sont arrivés pour me donner des défis, ne serait-ce que par exemple courir un semi-marathon ou un marathon. On dit ouais, c'est à la portée de tout le monde, mais non, c'est des sacrés défis.
Et le mental est très important.
Et surtout dans cette discipline-là. Ouais. Moi qui n'en ai jamais fait, j'ai adoré accompagner des gens qui voulaient juste terminer un marathon.
Ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait. Et surtout, ce qui était important, c'est d'être capable de le faire en préparant justement les moments potentiellement qui allaient être les pires, avec toujours en ligne de mire tout le bonheur qu'il allait y avoir à la ligne d'arrivée, en fait. À quoi c'était constitutif de quelque chose d'important. C'est pas juste courir, en fait, quand on s'inscrit ça. Mais quand on a trouvé ce qui nous anime dans un projet, ça prend déjà une autre ampleur, quoi.
Alors, comment vous travaillez-vous avec des sportifs, déjà? C'est toujours individualisé, pas forcément, d'ailleurs, ça peut être une équipe. En tout cas, c'est personnalisé.
Alors, c'est toujours très indépendant, effectivement, parce que moi, je fais une analyse individuelle. On va parler d'abord, effectivement, de l'accompagnement individuel. Il y a un terme, alors, peut-être qu'on fera une chronique un jour dessus, sur l'idiosyncrasie. C'est un terme un peu barbare.
Je ne connais pas.
Mais c'est juste la définition que chacun est différent avec ses forces et faiblesses. Donc forcément, si on essaye de croire que tout le monde va fonctionner de la même manière, c'est un peu le problème que j'ai moi avec l'éducation nationale aujourd'hui, c'est qu'on apprend des choses de la même manière à tout le monde.
Tout le monde,
surtout en essayant de valoriser surtout ceux qui ont de la mémoire. Alors dans le sport, effectivement, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et on se doit justement de travailler sur un processus efficace, et donc on va utiliser des techniques différentes en fonction des personnes et pour des mêmes sujets, pour des mêmes problématiques, pour des contextes identiques, on va s'adapter très différemment. Alors,
par exemple, ces techniques différentes selon les personnes?
Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout au début, c'est de comprendre l'histoire sportive. Et même des gens qui ont 14, 15, 16 ans, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu envie, j'en sais rien, de chausser des crampons ou de changer de sport, en fait? Justement, c'est quoi leur condition de plaisir à ce moment-là? Et on peut passer énormément de temps dessus. Alors, c'est vrai que les gens peuvent être frustrés au départ à se dire « Ouais, mais moi, je veux qu'on travaille sur mes problèmes. » Je dis « Ouais, mais moi, avant de travailler sur les problèmes, non, je veux savoir quel est le plaisir. » Dans le sens où, ok, t'es capable de passer 10 heures, 15 heures par semaine à te faire du mal. Il y a vraiment des sportifs, même jeunes, qui se font du mal. Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Une fois qu'on a compris ce jeu-là, effectivement, le fait d'y aller devient beaucoup plus équilibré. Et déjà, ça fait retomber la pression. Et des fois, derrière, on a des parents aussi qui mettent de la pression. On a plein de systèmes derrière qui influent sur la performance.
Et que ce soit sportif ou économique, un dirigeant, questionner la motivation, ça va être un levier important de changement.
C'est super important, et en entreprise notamment, puisqu'on est beaucoup plus en collectif. Je pose souvent la question, c'est quoi une équipe qui fonctionne ? Et on l'a bien vu, hein, si on prend une équipe de foot, hein, comme le PSG, normalement, avec les fonds qu'il y a, ils auraient dû gagner la Ligue des Champions depuis longtemps. Bon, peut-être que cette année, ça va marcher. Justement, il y a des ingrédients un peu différents, je trouve. Ça fonctionne quand on a une adéquation, déjà, entre les objectifs individuels et l'objectif de groupe. Une équipe, c'est pas forcément que des gens qui s'apprécient. C'est des gens qui vont dans le même sens. C'est des gens qui, par exemple... Alors, j'ai comme ça essayé de trouver... et on a fait ce travail avec une entreprise. On a trouvé 20 critères différents qui faisaient que, potentiellement, ça pouvait bien marcher ou, au contraire, très mal marcher. Et il y a ce sujet-là. Il y a aussi un sujet qui est important, parce que souvent, les conflits, on essaye de les ranger. Et ben non, en fait, un collectif qui fonctionne a une façon de gérer les conflits. C'est connu, c'est anticipé. Il y a une façon en fait, d'accueillir les émotions des autres. Il y a une façon aussi de reconnaître la compétence, etc., etc., etc. Il y a plein d'éléments.
Et j'imagine que tout le travail de préparation, c'est aussi d'intégrer effectivement ce collectif. Alors, comment vous intervenez en entreprise aussi, hein, individuellement, auprès des chefs d'entreprise, de managers, et collectivement, dans des ateliers par exemple aussi. On en parle dans 3 minutes.
Juste après la nouveauté de Lehmann avec Les Étoiles sur Neuf.
On a quitté la Terre, on a décroché la Lune. A fleuri le béton, les déserts au milieu des dunes. On a effacé les frontières, on en a stoppé des guerres. On a jeté les chaînes qu'on avait dans la tête. On a fait de nous deux un poème et une fête. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. Chanter notre histoire, la 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 la, nos rêves et infortunes. On en rêvait tellement le soir, sans trouver les mots justes. Puis elle a filé notre histoire, la 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 la, avec la tête dans la lune. Et souviens-toi du meilleur de ces mondes qu'on était, et de tous ces mots doux on se disait ailleurs, souvent même sans parler. Et pour te revoir un jour, je n'aurai qu'à m'adresser au ciel, puisque toutes les étoiles te connaissent bien pour être l'une d'entre elles. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la 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 la, infortune. On en rêvait tellement le soir, sans trouver les mots justes. Puis elle a filé notre histoire, la 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 la, avec la tête dans la lune, avec la tête dans la lune.
Si c'était toi l'étoile filante, ma belle étoile, si tu me manques, je n'oublie pas cette dernière danse. Merci d'avoir touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la 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 la, nos rêves et infortunes.
On en rêvait tellement le soir, sans trouver les mots justes. Puis elle a filé notre histoire, la 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 la, avec la tête dans la lune.
Tout nouveau, c'était Lehmann avec Les Étoiles sur Neuf. Jusqu'à 13h, la suite des rendez-vous de midi. Votre invité aujourd'hui, Emma, c'est Benoît Pinault.
Voilà, Benoît Pinault qui a lancé tout un travail, une activité de préparation mentale avec des cibles assumées, hein, les sportifs, les dirigeants aussi, avec Flow Experience, c'est le nom de la société. Vous êtes sur un territoire qui est très large, hein, vous pouvez intervenir sur pas que sur le Nord-Ouest Vendée, au contraire, Benoît.
Alors, beaucoup sur Vendée, Loire-Atlantique, mais je suis intervenu sur la région parisienne, sur Lyon. Là, normalement, je vais aller en Tunisie faire un atelier.
Sympa.
Oui, sympa, sympa, sympa. Donc, non, c'est assez large. Après, quand ce sont des ateliers, j'aime bien un peu de proximité, parce que moi, je mets énormément de temps à les préparer. C'est toujours sur mesure par rapport au sujet ou à la problématique. Et on invente beaucoup de choses pour les ateliers. Donc, les derniers que l'on a fait, voilà, on demandait beaucoup de temps de préparation, mais justement, ce que l'on vit à l'intérieur est beaucoup plus fort, quoi.
Ouais, c'est intense, et j'ai vu quelques retours très sympas sur votre site, évidemment. D'abord, la prépa mentale, c'est quand même une forme de coaching.
Oui. Oui, alors qui se développe en France un peu, mais avec encore pas mal de freins, et on a encore du boulot. Sur d'autres pays, beaucoup plus, et c'est vrai qu'on en parle dans le sport, encore une fois, que pour le haut niveau et encore. Et après, je suis assez mesuré, en fait, sur le discours qu'on a sur la prépa mentale, dans le sens où pendant les JO, on en a énormément parlé, hein, notamment Léon Marchand qui a parlé de son parcours, etc. Après, attention aussi, il faut savoir que le dernier de la série, de la première série qui a été éliminée, il fait aussi de la prépa mentale.
Oui, aussi, évidemment. Hein, oui, c'est possible.
Donc, ce n'est pas la condition sine qua non pour performer.
Ouais.
Ça reste un extraterrestre. Et il met toutes les chances de son côté, parce qu'il met aussi de la prépa mentale, il met de la nutrition, voilà, de la diététique, de l'entraînement spécifique, de l'entraînement physique. Il a une idée très, très claire de son projet. Donc, voilà, il faut environner tout ça.
Alors, vous accompagnez, donc on l'a vu, des sportifs, des dirigeants aussi, en individuel.
Oui.
Des dirigeants, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un manager, qui évidemment évolue pour la plupart, j'imagine, quand ils vous appellent dans un contexte un peu stressant, de pression économique, financière. On a une conjoncture qui n'est pas simple.
Exactement, en ce moment, il y a pas mal d'entreprises qui sont en fragilité, et puis c'est pas anodin pour les dirigeants. Dans le sens où généralement c'est pas des situations qu'ils ont prévues et anticipées. Bien sûr, on est toujours porté vers le fait de croître son entreprise, à vouloir recruter, à charger de la production, et puis là on se retrouve dans des situations où c'est un peu le contraire qui se passe. Et bien, le dirigeant aujourd'hui il vit des situations où émotionnellement c'est dur, ça déséquilibre énormément aussi avec l'affect familial. Le manque de sommeil joue beaucoup sur ce sujet. Et donc, il y a pas mal de préoccupations aujourd'hui sur des dirigeants dont l'entreprise est en situation de fragilité. Et là, c'est très intéressant, justement. Moi, ce que je propose à ce moment-là, c'est un peu une analogie avec le combat de boxe.
Vous aimez bien les métaphores sportives. Hein.
Ah, mais j'adore. Mais c'est parlant.
Oui.
En fait, on est en train de mener un combat. On se prend des coups. Et puis, moi, ce que j'offre, c'est justement ce coin du ring, ce moment entre les rounds.
On respire un peu, là, deux minutes, là, même pas, quelques secondes, là.
Voilà, on respire un peu. Il y a l'entraîneur qui vient apporter sa petite serviette avec de l'air. Et puis surtout, on prend de la hauteur à ce moment-là. On analyse les choses avec un autre angle de vue pour comprendre effectivement qu'est-ce qui se joue, quels sont les réels enjeux, quels sont mes leviers et vers quoi je vais mettre mon énergie plutôt que de subir. Et ça permet de revenir sur le ring avec une autre motivation.
Et vous êtes un peu l'entraîneur avec la serviette et l'eau.
Oui, si on
d'autres
veut.
D'autres techniques, j'imagine.
Oui, d'autres techniques, parce que j'essaie justement d'amener les gens à montrer ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai très peu de conseils. Je ne sais pas gérer une entreprise, en fait. J'ai énormément de respect et d'admiration pour des gens qui se lèvent le matin en se disant « Moi, j'ai une idée. Je vais aller offrir ça au monde. Je vais amener des gens avec moi dans mon parcours, ce que j'appelle des vrais leaders. » Qui sont inspirants et qui vont justement embarquer ces gens. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je suis incapable de faire ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est les aider à prendre du recul et avoir les idées fraîches. Oui.
Et puis, vous accompagnez aussi les entreprises collectivement via des ateliers. Là, on peut vous demander ça et ça, vous le faites régulièrement. C'est un plus, évidemment, quand on fait intervenir une équipe sans hiérarchie. Ça, c'est important pour vous.
Oui. Alors, ce que j'apprécie, c'est quand on met les gens autour de la table, effectivement, la hiérarchie s'efface volontairement. Les méthodes sont là pour ça. J'utilise notamment les Lego Serious Play, mais pas que. Je l'intègre aussi avec plein d'autres choses, sur des fois des choses qui n'ont a priori rien à voir. Mais par exemple, j'emmène des sacs de randonnée qui sont remplis d'objets un peu rigolos ou anecdotiques. Et ça parle autour, ça permet justement de vider son sac et d'échanger, parce que là, à ce moment-là, déjà ce qu'on arrive à initier, et ce qui est primordial dans une entreprise, c'est une écoute. Je suis très attaché aussi à ce qu'on appelle le care, prendre soin en anglais, et ça passe par l'écoute. Peu importe ce que l'on dit, le fait de savoir que l'on va être écouté, notre avis compte, et on est considéré. Vous voyez ce que ça change de savoir qu'on est considéré dans une entreprise et qu'on n'est pas juste là pour répondre à une tâche? Ça prend tout son sens.
Mais le fait déjà de vous contacter, de vous solliciter, c'est qu'on considère aussi évidemment son entreprise, c'est des personnes qui travaillent pour soi. Dans quel type de problématiques on vous a contacté ces dernières années?
Alors, ces derniers temps, il y a eu justement du conflit, il y a eu de ma gestion de stratégie qui était un peu compliquée à mettre en place. pour de la communication, pour comprendre un petit peu comment rebondir. Souvent, c'est voilà, on est face à une situation, on ne sait plus trop comment la gérer. Est-ce que vous auriez des idées?
Et le bilan de ces quelques mois, années de travail, c'est efficace, la préparation mentale?
Oui, alors c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas spot. Alors on intervient à des moments clés, mais ce que j'aime bien, c'est avoir un suivi. Et il y avait justement un participant à un atelier un jour qui me dit « Ouais, c'est très bien ces ateliers, mais en général, voilà, on se fait plaisir, on passe un moment. »
Et puis le lendemain,
ça y est, on est retourné dans notre quotidien. Et il a entièrement raison. Et moi, ce que j'apprécie, c'est justement derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la première même action du lendemain qui fait que ça va changer quelque chose, quoi. Et c'est là où les gens, ben justement, quand on voit à la fin qu'ils sont prêts à s'approprier quelque chose, c'est pas moi qui leur dis bon, maintenant vous allez faire ça, ni même le dirigeant. Et quand les gens disent oh, moi ce que je veux maintenant, si on pouvait faire ça, mais voilà, ça me simplifierait, ça me faciliterait mon quotidien ou mon vécu du quotidien, ben ça y est, on commence à faire des choses.
Donc voilà, plein de possibilités de vous contacter. Pour terminer, vous avez un autre volet d'activité. Benoît, on vous retrouve dans des conférences, dans la rédaction d'articles, en radio aussi un petit peu, de temps en temps.
Alors en radio, ben, ça me manque, je vous avoue, un jour peut-être on reprendra. Et vous savez que je continue à écrire un peu en shadow, comme on dit.
Oui,
comme si j'avais des émissions à faire, j'ai des idées. Et du coup, j'ai un recueil d'idées qui sont prêtes à faire des chroniques. Donc si un jour on reprend
la matière.
Et puis oui, j'écris pour un magazine économique, l'Informateur judiciaire. Dans lequel justement j'écris des chroniques sur le management par le sport, par cette même analogie. Donc j'aime beaucoup ça dans une chronique du Cercle des Experts. Puis pareil, la télé, les émissions pour l'instant prépa mentale sur TV Vendée sont un peu en stand-by le temps que le journaliste soit remplacé, mais je ne désespère pas d'avancer.
De revenir aussi, ça vous a plu, ça, cette pratique audiovisuelle?
J'adore.
Oui, il adore ça, mais on le sent bien.
Puis même d'autres livres, en fait, j'ai encore des livres en préparation sur des sujets, mais ça, je sais pas le moment, j'en parle pas pour l'instant.
Donc quelques projets en tout cas, toujours à Benoît Pinault. Pour en savoir plus, il y a un site, il y a des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on vous contacte?
Alors, le plus simple sur flow-experience.fr, effectivement, il y a une page Facebook aussi, LinkedIn, Instagram, et puis sinon, vous trouvez très rapidement mes coordonnées. De toute façon, bon, c'est important qu'on se parle, qu'on ait un vrai échange. Et puis savoir très rapidement si je peux faire quelque chose ou pas.
Ou pas.
Non pas que la cause soit perdue, c'est potentiellement aussi d'autres personnes qui soient mieux placées.
Vous êtes honnête et sincère. Merci beaucoup, Benoît. Ben, écoutez, on vous retrouve donc flow-experience. Et puis peut-être un de ces jours de nouveau à l'antenne de Neuve. Pourquoi pas? On a une belle histoire avec Benoît.
Ben oui, tu reviens. Enfin, vous revenez.
On se dit
tu. Allez, tu reviens quand tu veux. pour évidemment d'autres rendez-vous de midi, entre autres. Et puis demain, fin de semaine.
Oui, une autre personne qui a aussi. Fidèle à Neuf, c'est Benjamin Senard. On va parler d'un nouveau festival qui arrive au Davio, à l'écomusée de la Barre de Mont. C'est le festival Au Grand Air. Alors, ce sera le week-end du 12 avril. Le Davio qu'on va retrouver un des week-ends en mode vacances, avec plein d'ateliers aussi à venir. Mais le 12 avril et 13, on va parler de biodiversité, de patrimoine naturel et tout ça demain avec Benjamin Senard.
À 12h35. Merci, Benoît. À très vite alors.
À très vite.
Sur notre antenne. Et puis, à tout de suite, version digitale, podcast évidemment. L'émission arrive. Le site est l'appli Neuf. 13h l'info avant d'écouter Delight Santa et à tout à l'heure évidemment pour le Club Neuf. Bon après-midi.